des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Je discute avec mon grognon libertarien préféré, Adrien Pliot. Salut, Adrien.
Salut,
oui, j'aime ça parler avec toi parce que t'es tout le temps à contre-courant. Alors là, tout le monde, dont moi, je m'inclus là-dedans, a tout dit, voyons, donc Pierre Poilievre qui veut congédier le président de la Banque du Canada. Voyons, il y a une bulle au cerveau. Toi, tu dis, ben, il y a peut-être des bonnes raisons, Adrien. Explique-moi ça.
Ben, écoute. Le point de Poilievre, c'est que les banques centrales ont créé ou ont empiré disons la situation inflationniste dans leurs pays respectifs et ils ont fait une mauvaise job pendant la pandémie. Et c'est à cause de cette mauvaise job-là qu'on est poigné avec une inflation de 7% actuellement qui risque même d'être plus que ça. Bon, tu sais, congédier, je pense qu'en théorie, même légalement, il peut pas le congédier, là, parce que le président de la Banque du Canada, il est nommé par un conseil d'administration, puis, mais tu sais, dans un sens, c'est un peu comme le président de la Caisse de dépôt, tu sais, il y a un conseil d'administration qui nomme le président, de la Caisse de dépôt, mais on sait bien que c'est le premier ministre qui décide. Mais le point important, c'est, tu sais, il faut réfléchir sur c'est quoi l'inflation? D'où est-ce que ça vient l'inflation? Comment est-ce que c'est arrivé? Puis, quel est le rôle de la Banque du Canada là-dedans? Quand tu regardes, Richard, le déficit du gouvernement de Justin Trudeau dans les deux dernières années, c'est 360 milliards.
Ah oui, c'est énorme.
Fou. Rappelons-nous qu'un milliard, c'est 1000 millions. Là. Alors, c'est 360 000 millions. C'est des chiffres qui sont quasiment incompréhensibles. T'sais. Bon, mais alors, et quand tu regardes le rôle de la Banque du Canada, qu'est-ce qu'elle a fait la Banque du Canada? Elle a virtuellement, si tu veux, en guillemets, imprimé 400 milliards de dollars, puis elle a mis ça dans le compte de banque du gouvernement.
Écoute, attends une minute, là, il me semble que Adrien, tu as une bonne mémoire. On riait des créditistes quand ils disaient ça. Tu sais, les créditistes, ils disaient, bon, on va imprimer de l'argent, bon, ils trouvaient niaiseux.
Non, mais parce que quand tu imprimes de l'argent comme ça, plus que la croissance naturelle de l'économie, à un certain point, il y a trop de dollars qui courent après pas assez de biens. Je vais te donner un exemple. Toi, Richard, tu es propriétaire d'un cinéma. Il y a 200 sièges dans le cinéma. OK? Donc, tu imprimes 200 billets. Tu vends chaque billet 10 $ mettons. Et l'acheteur, ben, le gars, quand il arrive dans le cinéma, il y a pas de chicane sur les sièges parce qu'il y a 200 sièges et 200 billets. Puis les billets valent, mettons, 10 $ Mettons qu'un mois après, tu te lèves, tu te dis, « Hey, j'ai une maudite bonne idée. » Je vais vendre 400 billets. Je vais faire bien plus d'argent. Je vais faire 400 fois 10, je vais faire 4000 piastres au lieu de 2000 piastres. Alors, tu imprimes 400 billets, puis tu vends ça à tout le monde. Puis là, alors imagine, tu as 400 personnes dans le cinéma, puis il y a 200 sièges.
Ben oui.
Alors là, ça prend comme 2 billets par siège. Donc, le billet qui valait 10 piastres, ben là, il vaut rien que 5 piastres. Ça t'en prend 2, tu sais. Donc, la valeur du billet a diminué de moitié. Alors, l'inflation, dans le sens de l'impression de papier-monnaie, d'augmentation de la masse monétaire, c'est ça que ça fait, c'est que ça diminue la valeur du papier, ou inversement, ça fait que tu as besoin de plus de papier pour acheter le même bien, donc tu as de l'inflation. Et alors, la Banque du Canada a financé, elle a imprimé, entre guillemets, il n'y a pas une imprimante à quelque part, là, tu sais, mais tout se fait de façon électronique maintenant. Alors, la Banque du Canada a crédité, elle a mis dans le compte de banque du gouvernement de Justin Trudeau 400 milliards de dollars que Justin a dépensé allègrement à gauche et à droite. Et puis, bon, tu sais, pendant la pandémie, évidemment, il n'y avait rien à acheter parce que tout était fermé. Mais là, ça, que tout est réouvert, ben là, les gens, tu sais, achètent. Puis, C'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays. Ils ont tous fait la même affaire, peut-être quelques exceptions près, comme peut-être la Suisse. Alors donc, l'argument de Poilievre, c'est que les banques centrales et notamment la Banque du Canada ont fait une job de derrière. Ils ont aidé les gouvernements à se mettre dans le trou, à créer cette inflation-là. Et il faut en guillemets, il faut comme congédier le président de la Banque du Canada.
Mais OK, mais t'as été prof d'économie, toi?
Non.
De maths, en tout cas, t'enseignes bien, on va te dire. Mais tu mets ça très clair. Mais je le dis, Adrien, Poilievre, on sait qu'il il trippe beaucoup sur la crypto-monnaie. Ouais. Si les gens l'avaient entendu, l'avaient écouté, avaient suivi ses conseils, il y aurait beaucoup de gens qui se retrouveraient sans paille parce que la crypto-monnaie, là, c'est super volatile.
Oui, alors, lui, ce qu'il dit, c'est un peu... À l'opposé ou ça peut sa réponse. Lui, ce qu'il dit, c'est que la Banque du Canada, comme j'ai expliqué, elle peut imprimer de l'argent là, sans arrêt. L'imprimante peut marcher là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 fois par année. Le Bitcoin, la crypto-monnaie Bitcoin, spécifiquement celle-là, il y a une limite qui est bâtie dans le code, dans l'ADN du Bitcoin, dans le code informatique. Il y a une limite au nombre de Bitcoins qui peuvent être en circulation. C'est 23 millions. Alors, ce qu'il dit, c'est que une monnaie dont la quantité est limitée va éviter justement cette dévaluation-là qu'on voit maintenant avec le papier monnaie. Tu ne pourras pas n'imprimer plus que 21 millions, 23 millions, je pense que c'est 21 ou 23, je ne me rappelle plus. Lui, son argument, c'est de dire, quelque chose comme le Bitcoin empêcherait naturellement, automatiquement, la dévaluation ou l'impression folle de papier monnaie. Bon, et c'est sûr que, tu sais, il y a une couple de pays là qui ont rendu le Bitcoin comme étant la monnaie légale dans leur pays. Je pense qu'il y a El Salvador, puis un autre pays à quelque part en Afrique, oui, qui vient de le faire. C'est sûr que c'est pas, tu sais, c'est très volatile, puis.
Mais c'est très, il faut que, tu sais, moi, quand je vais, mettons, tu sais, pour mes finances personnelles, tu rencontres un conseiller financier, puis il dit, c'est quoi ta gestion du risque? Est-ce que t'aimes le risque élevé ou t'es allergique au risque ou risque moyen? Ouais. Moi, c'est le temps moyen. Mais quand tu te lances dans le Bitcoin, là, il faut que t'attaches ta ceinture parce que c'est les montagnes russes.
Ouais, alors je pense que l'argument, ce qu'il dit, Poilievre, c'est que le Bitcoin devrait être une façon légale de payer au Canada, mais il dit pas que ça devrait être la seule. Il dit on peut continuer à garder le dollar canadien, mais on pourrait avoir une deuxième monnaie légale qui est le Bitcoin. Moi, j'en ai des Bitcoins, tu sais, puis je n'ai pas beaucoup, puis ça fluctue là, ça fluctue beaucoup. Mais j'aime beaucoup le concept du Bitcoin où tu dis tu peux pas l'imprimer plus que tant, 21 millions, et donc tu peux pas les, parce que tu sais, Dans l'histoire de l'humanité, les monnaies, là, ils finissent toujours le souverain, le roi, le prince, le gouvernement, le premier ministre, ils finissent toujours par dévaluer. Puis les Romains, c'est tout ce qu'ils faisaient. Il y avait une pièce, c'était de l'argent, mettons. Alors tu disais, OK, mettons, un dixième d'once d'argent, faisait une pièce avec ça, puis la pièce servait à. De monnaie d'échange. Tu sais. Et à un certain point, le souverain, il s'est dit, hey, j'ai une idée. Je vais prendre un punch, excusez-moi anglais, puis je vais faire un trou dans le milieu de la pièce. Alors là, tu vas avoir une pièce avec un trou dans le milieu, là, un petit rond là, vide, là. Puis je vais le dire à tout le monde, il n'y a rien changé. C'est la même pièce, puis fais-nous en pas, c'est la même affaire. Alors, les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ils prenaient la pièce, puis au lieu d'être un dixième d'once, bien là, c'était rendu, disons, un vingtième d'once. Puis le souverain, lui, ce qu'il faisait avec le coup de beigne, là, bien lui, il faisait un paquet de de pièces à lui, là, tu sais. Il avait volé le monde, finalement. Alors, c'est un peu le même principe.
Donc, toi, c'est ton côté libertarien en disant pourquoi on m'obligerait à payer mes transactions avec seulement une seule monnaie? Pourquoi ce serait la même affaire pour tout le monde? J'ai le droit, en tant que libertarien, de pouvoir régler mes transactions comme je l'entends. C'est ça.
En fait,
soit par le troc, soit par le troc, soit par l'argent canadien, si je veux, soit par les bitcoins, si je veux.
Ouais, en pratique, là, de dire que le bitcoin est une des monnaies légales du Canada, ce que ça voudrait dire, c'est que, par exemple, si tu veux payer tes impôts, actuellement, si tu veux payer tes impôts au Canada, tu es obligé de les payer en dollars canadiens parce que le dollar canadien est la seule monnaie légale. Ben là, si le bitcoin était une deuxième monnaie légale, tu pourrais payer le gouvernement, tu pourrais payer des impôts avec des bitcoins. Ça change pas grand-chose en pratique, tu sais, je veux dire. Le langage de Poiliev, c'est plutôt théorique. Puis je sais pas pourquoi se mettre en emphase là-dessus. Là, finalement, là, c'est un peu, tu sais, un peu ésotérique son affaire. Mais je comprends son point de vue, c'est que les banques centrales font une mauvaise job. Puis tu sais, entre toi et moi, là, le gouvernement est pas capable de rien gérer. T'sais, ils sont même pas capables de gérer leur système de paye, là, Phoenix. Là. Alors de dire en plus de ça, on va leur laisser gérer la masse monétaire. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui dit, il y a il y a des gens qui disent.
Ouais, ben, mais tu dis la question se pose. La question se pose. Moi, j'ai déjà lu quelque part que même des villes qui ont comme leur propre monnaie.
Oui.
Il y a des villes qui ont fait leur propre monnaie pour eux autres, qui circulent pour eux autres, qui est acceptée dans les restaurants, dans les commerces.
Ben, je sais pas si. Ben, toi, je sais que tu aimes beaucoup l'histoire puis tout ça, mais la banque Molson a déjà, puis d'autres banques aussi, mais je sais que la banque Molson, là, au Canada, là, elle avait sa propre monnaie. Il y avait des dollars qui étaient imprimés. C'est écrit, c'était un dollar de la banque Molson qui était backé, excusez-moi anglais, là, mais qui était, il y avait une once d'or en arrière de chaque 35 billets qui était émis par la banque Molson. Puis les gens savaient que avec ce billet-là de la banque Molson, si jamais ils voulaient avoir de l'or, ben ils étaient capables d'aller à la banque Molson, puis la banque Molson allait dans ton coffre-fort, puis elle prenait 35 ou une once d'or, puis elle la donnait à la personne. T'sais. Alors, c'est plutôt que de transporter de l'or pour faire tes échanges, puis ton troc, c'est parce que c'est lourd de l'or. Alors donc, la banque Molson a dit, écoutez, donnez-moi votre or, je vais vous donner les billets, puis si jamais vous voulez avoir votre or, ben rapportez le billet, puis on va vous donner l'once d'or, tu sais. Alors ça, c'est comme ça vraiment que le papier monnaie a commencé. C'est une façon beaucoup plus pratique de faire des échanges commerciaux que de se promener avec de l'or ou, historiquement, il y a eu toutes sortes de choses, des pierres précieuses, tu sais, des tulipes dans le... Il y a toutes sortes de choses qui ont servi de monnaie d'échange.
Ben, il y a des gens qui fonctionnent par le troc. Je te donne 15 pains, tu me donnes une tondeuse. C'est chacun a décidé quoi vaut quoi, puis tout ça. Effectivement, et c'est ce que dit Poiliev, en fait. C'est pourquoi il y aurait seulement qu'une façon de payer certaines transactions, alors qu'on sait que les libertariens, le choix, c'est très important. La liberté individuelle, c'est très important. Écoute, Adrien, j'aurais adoré parler d'école privée avec toi, parce que j'ai 3 enfants, ils sont tous allés à l'école privée. J'en suis très fier, je n'ai pas honte de ça. Et chaque fois, ça revient régulièrement où on veut abolir l'école privée. Et là, il y a une nouvelle gang qui s'appelle l'École Ensemble. La semaine prochaine, okay, on n'a plus le temps, mais la semaine prochaine, on fait toute la chronique sur l'école privée.
Parce avec plaisir, Richard.
Il faut refaire ce débat-là. On dirait qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Là.
Ça vient comme un disque cassé. On veut éliminer la concurrence. On veut avoir le monopole de l'éducation publique. C'est toujours la même affaire.
Ben, c'est ça. Puis c'est les riches qui peuvent se payer l'école privée, alors qu'au contraire, si on cesse de subventionner les écoles privées, là, ça va être rien que les riches. Effectivement.
Exactement.
Ils comprennent pas ça. OK, merci, professeur Adrien. Professeur Adrien Pouliot, salut.
C'est mieux ça, professeur Adrien Pouliot, que Grognon.
OK.
Monsieur le professeur Grognon.
Salut.